Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Parlons Foot 97.9 FM. Et nous faisons notre entrée pour la quatrième édition de l'émission. Bonjour, donc je suis en compagnie donc de Elliot.
Bonjour.
Enzo.
Bonjour.
Valentin.
Bonjour.
Et donc moi-même Dylan, donc on a reconduit l'équipe pour cette saison. Donc au sommaire, donc nous parlerons pendant 5 minutes des débats sur les matchs du week-end, les impressions de chacun. Il y aura les paris Ligue 1, Ligue 2, étrangers, l'actualité, les débats questions donc pendant 15 minutes. Et aujourd'hui donc nous parlerons de l'équipe de France, donc en gros liste et Euro 2016. Et puis nous parlerons de l'USONAC et puis les questions de chacun. Impression sur le week-end pour chacun d'entre vous. On va commencer avec toi, Elliot.
La Ligue 1, là, c'était tranquille. Beaucoup de matchs nuls. Pas beaucoup de suspense dans les matchs.
Enzo ?
Quand tu dis pas beaucoup de suspense, c'est Marseille-Caen qui a été plutôt.
Oui, à part Marseille-Caen, mais c'est presque le seul, j'ai envie de dire.
Paris-Monaco.
À part Paris qui se fait égaliser dans
le
Paris.
Le match de Reims aussi qui est intéressant finalement, parce que Reims, lanterne rouge, qui affrontait Bordeaux.
Qui a réussi à s'imposer, donc une Ligue 1 avec des surprises ce week-end.
Puis Paris qui confirme pas encore une fois sa victoire contre le Barça. Encore une fois, ils ont fait un match fantastique qu'ils ont fait contre Barcelone. Puis ils ont tombé aussi sur une bonne équipe de Monaco.
On peut rappeler aussi ce bon match cette semaine avec la victoire contre le Barça, sans Ibrahimovic tout de même. Impression sur le match ?
Match. Paris n'a pas vraiment dominé, au contraire, ceux qui ont subi le plus d'occasions que...
Il fallait s'y attendre avec le Barcelone.
Le Barça est quand même chanceux sur les buts qui marquent. Il y a le poteau à la fin.
Le premier but de Barcelone est une action qui n'est pas chanceuse. C'est le jeu typique de Barcelone. Mm. Passe, et tire et but.
Mais Paris serait-il pas rentré dans ce dont quoi on avait peur? Le fait que Paris donc joue la Ligue des Champions à fond et malheureusement sans le vouloir oublie le championnat en pensant que c'est déjà gagné pour eux.
C'est ce qui se passe hein, pour l'instant.
Que Paris pensait tout le temps gagner, ils ont tout le temps dominé le championnat facilement alors que cette année bah les équipes veulent les battre.
Donc voilà pour cette séquence. Donc moi, par rapport au week-end, il y a eu des matchs qui m'ont intéressé. Il y a eu aussi cette bonne ambiance entre le Nantes et Guingamp-Nantes, pardon. Il y a eu ce match entre Lyon et Lille avec ce but de Lacazette qui peut faire polémique puisque le deuxième but est hors jeu, mais aussi le fait que Lacazette n'ait pas été appelé en sélection.
Après... Ouais, bah, sur le début de saison, Gignac est meilleur que Lacazette. Mm.
Ah bah largement, oui.
Il n'y a pas photo.
Gignac est le meilleur buteur et c'est lui qui fait le jeu de Marseille.
Sans Gignac, il n'y a plus de Marseille.
Sans Gignac, il n'y a plus de Marseille. Sans Zlatan, il n'y a pas à Paris.
Ça paraît
logique. Il y a Batshuayi à Marseille qui est un très bon joueur, je l'ai vu dans la préparation.
Ça paraît logique, de toute façon, que Gignac ne sera pas là pour la saison prochaine.
Oh non, ça m'étonnerait.
C'est déjà acté, je pense.
Non, à mon avis, il aura des offres de grands clubs qui sont plus forts que Marseille.
En même temps, pour lui, il vaut mieux partir.
Il a progressé dans tous les domaines, que ce soit dans le jeu, dans la vitesse ou même en termes de poids, sans me moquer, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'insultes sur lui, qu'il passait son temps au McDonald's, qu'il fallait arrêter de manger les raclettes.
Et bien, ça lui a fait perdre 5 kilos quand même.
5 kilos quand même, et puis il faut vous regarder par rapport à il y a 2 ans à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mannequin hein, en termes de corps, Gignac. Donc voilà pour les amateurs de mannequinat. oui, Gignac paraît, de toute façon, c'est l'homme sans doute incontesté de cette équipe de Marseille en ce début de saison.
Oh, Payet aussi, Dimitri Payet.
Bah, je trouve quand même que le fait que Payet soit appelé en équipe de France est moins justifié.
Oui, il fait un très bon début de saison, c'est comme Gianelli Mboula.
Mais bon, nous en reparlerons dans le débat équipe de France tout à l'heure. Les paris donc pour ce week-end. En termes de ligue étrangère, on va commencer avec l'Espagne.
Donc la semaine prochaine, il y a l'Atlético Madrid, pardon, qui joue contre l'Espagnol de Barcelone.
Bah, L'Atlético vient de recevoir son premier revers de la saison, donc après il y a Simeone qui revient. Donc une victoire de l'Atlético, mais dans la difficulté.
Match nul.
Le match est déjà très compliqué à pronostiquer. L'Atlético fait un mauvais de saison, vraiment très 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 mauvais. Vraiment très mauvais début de saison.
Bah, c'est pas pire que le Real.
Non, mais à côté, c'est quand même. Ils ont perdu 1-0, 4-1, 3-1 contre Séville.
Oui.
Donc ça fait mal. Il y a eu ces matchs nuls. Alors il y a eu le fait aussi, certes, que Simeone soit pas sur le banc. Moi, je pense qu'il va y avoir un match nul.
Moi, je pense aussi que ça finira en match nul.
Match nul.
Ah, ensuite, on passe à l'Angleterre avec Enzo.
Manchester City contre Tottenham.
Tottenham a réagi contre Southampton
1-0.
1-0.
Avec un but d'Eriksen.
Qui est la surprise de ce championnat. Oui.
City a eu un peu plus de mal contre Aston Villa. Je vois le match nul aussi.
Il a fallu que Yaya Touré encore débloque la situation. Je pense que sans Yaya Touré, City serait dans de grandes difficultés.
Oui, il y a eu aussi ce flop en Ligue des Champions. Hein. Roma,
match City, nul.
Roma quand même, match nul. Bon, très bon résultat pour la Roma. On aura sans doute la chance d'en reparler pour, quand on passera à l'Italie. Moi, je pense que ça va faire une victoire de Tottenham. Je le sens bien en ce moment. Vertonghen en défense, c'est très très solide. Lloris, pour l'instant, se prend pas trop de buts. En attaque, bon,
il peut pas s'en prendre plus que les dernières.
Oui, 30 buts en un mois, c'est sûr qu'il peut pas faire mieux.
Moi, je vois bien le match nul.
Match nul.
Match nul. Moi, victoire de Tottenham pour moi. Ce sera la surprise du week-end, je pense.
Et en Allemagne, bah, match Paderborn contre Francfort.
Paderborn.
Qui a bien commencé sa saison.
Première saison en Bundesliga.
L'Eintracht Francfort qui est quand même quatrième du championnat. On ne les attendait pas à ce niveau, au vu de la saison dernière. Et Paderborn promu.
Pour sa première année de son histoire en Bundesliga.
Année en Bundesliga.
Ce championnat de Bundesliga est plein d'allégories en ce moment.
Bon, il est plié.
C'est compliqué.
Le Bayern
hein.
sera champion.
Champion, je sais pas.
Il a quand même fait deux matchs nuls.
Dortmund, ils sont loin, Dylan.
Oui,
c'est très bien. Hoffenheim n'est pas loin.
Hoffenheim est une équipe solide cette année. Là, on les attendait pas. Et d'ailleurs, pour parler du Bayern, puisque c'est un des stades les plus rentables, l'Allianz Arena, tous leurs matchs seront à guichet fermé, sauf Hoffenheim. Parce qu'Hoffenheim était une des moins bonnes équipes et des moins alléchantes à affronter la saison passée. Bon, là, vu le classement, il devrait être aussi à guichet fermé. Logiquement, normalement. Hoffenheim est quand même une équipe solide. Le Mönchengladbach se fait discret, mais tout de même troisième.
Il va falloir compter sur eux. Hein.
Wolfsburg, bon, il y a 6 points de retard.
Mais
c'est
une très bonne équipe.
L'équipe qui fait peur cette année, c'est sans aucun doute Dortmund. Ça fait peur, là, les résultats.
Oui, parce qu'ils gagnent pas domicile.
Ils sont quand même 13e.
Déjà 10 points de retard sur.
Bah, ça
sur le Bayern.
Le Weder qui est dernier avec 4 points et il a 3 points d'écart entre eux. Je veux dire, à la prochaine journée, si le Dortmund perd, il devrait d'ailleurs normalement, je pense, rentrer dans la zone de relégation.
Donc pour moi, ça sera une victoire de Paderborn.
Mais oui, Paderborn qui a été leader pendant quelques temps. Donc pour moi, victoire de Paderborn.
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 En Italie, alors un match assez alléchant entre l'Inter qui a du mal à carburer, hein. Depuis deux matchs,
oui.
Bon début de saison, mais alors depuis deux matchs, c'est la cata. Et une équipe qui se fait discrète en ce début de saison, que ce soit Ligue des Champions, puisqu'ils ont été éliminés en tout début de saison, le Napoli. Contre l'Atlético de Bilbao, qui aujourd'hui réalise d'ailleurs des résultats médiocres en Espagne, puisqu'ils sont 18e.
C'est pas étonnant, Bilbao, hein, parce que moi je me souviens que quand ils avaient joué l'Europa League, ils avaient été aussi passés très près de la relégation.
Donc le Napoli qui est 10e donc joue ce soir contre le Torino hein. Et l'Inter qui jouait non ça jouait hier oui excuse-moi l'Inter qui a joué donc contre la Fiorentina pour ceux qui savent pas la Fiorentina qui a quand même éclaté l'Inter 3-0 ça fait mal et puis l'Inter qui a pris un grand revers chez lui puisqu'il s'incline 4-1 contre Gagliari
et juste avant il y avait une défaite contre Palerme 2-1 qui est souligné parce que par exemple c'est un promu donc
Naples jouera en terre extérieure mais Naples est certes 10e, l'Inter est 8e. Je pense que c'est la chance pour Naples de passer devant l'Inter et donc pourquoi pas de se dire bah on met un concurrent derrière nous.
Bah il y a des possibilités pour Naples hein. C'est faisable.
Il n'y en aura pas comme ça tout le long de l'année hein. Puisque la Juve a déjà battu Rome
3-2.
La Roma, donc ils sont quasiment déjà partis pour filer, mais ça va être dur pour Naples d'aller rattraper la Juve ou même Rome.
Bah, la Juve qui a une bonne équipe quand même.
Oui, victoire 3-2 hier contre la Roma, mais par contre l'arbitrage est plus que douteux. Oui. Puisqu'il y a deux pénalties, pour moi il n'y a pas pénalty, c'est un coup franc, puisqu'il y a bien main, mais c'est coup franc. Et puis il y a l'autre où c'est simulation, donc pour moi ça doit faire
2-1
pour Rome. Donc le pronostic, Inter Milan Naples.
Le calvaire va continuer pour l'Inter. Victoire de Naples.
Match nul.
Victoire de Naples.
Victoire de Naples.
On va passer à la Ligue 2 avec le match entre Laval et Brest. Laval qui a eu un début de championnat très poussif et qui a commencé à s'imposer dans
sept
le début du Maine.
7 nuls, c'est quand même
beaucoup. Pas de défaite cette année.
Une
mais l'année dernière c'était quand même de 5 matchs, c'était 3 défaites, 2 nuls.
Une équipe qui perd le moins parce qu'elle a quand même perdu moins de fois que Dijon ou 3 qui sont premier et deuxième.
C'est encourageant. Et puis il y a Brest cette année pareil qui est sur la lancée de la saison passée, mais qui a, parce que la saison passée,
ah oui, la fin de la saison passée.
Oui, où ils auraient même pu avoir quelques espoirs de monter, ça leur est venu. Moi je vois une victoire tout de même de Laval, mais ça va être un match très 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 compliqué pour les deux équipes. Mais Laval à domicile,
c'est
ça réussit bien pour l'instant.
C'est à Laval.
C'est à Laval. À
Brest, l'année dernière Laval avait gagné.
Laval est vraiment bon sur son terrain cette année. C'est leur force. Et Brest, leur force, c'est à domicile aussi.
C'est vrai que Brest fait beaucoup de matchs nuls à l'extérieur. Donc, mon match nul.
Match nul.
Le deuxième match.
Valenciennes-Dijon. Dijon qui est premier. Qui a pris 3 points d'avance sur.
Sur 3.
Sur 3.
Moi, je vais dire quand même victoire de. Match nul. Parce que Dijon, pour moi, ne me.
Valenciennes est combien au classement?
Valenciennes, bon, a remonté la pente, hein, puisqu'il a.
Il n'y a plus aucune
nul contre 3 hier.
Plus aucune équipe
avant-hier.
De Ligue 1 n'est dans la zone de relégation.
Non. Valenciennes, donc 14e. Juste devant Ajaccio. Hein. Et va affronter donc Dijon le premier. Mais Dijon ne m'a pas conquis. Valenciennes non plus. Puisque Valenciennes, pour moi, c'est.
C'est
une cause perdue en ce début de saison.
Il savait très bien que ça allait être dur de remonter après l'échec de l'année dernière.
Donc pour moi ce sera un match nul.
Victoire de Dijon.
Match nul.
Et donc je crois que c'est tout pour les pronostics Ligue 2. Pour la Ligue 1, donc pronostic Lens Paris Saint-Germain, le gros match.
Match nul.
Il jouera au Stade de France.
Voilà, donc Paris à domicile quelque part.
Oui.
Et Lens qui fait un bon début de saison,
voilà,
quand même.
Enfin, un bon début de saison, oui. Plus impressionnant que ce qu'on aurait pu penser, oui.
Oui.
Match nul.
Mais ça va être surtout un match, une bonne rentrée d'argent pour Gervais Mertel, hein, je pense. Hein. Je sais pas s'ils seront à des guichets fermés.
Je pense que à guichets fermés.
Ce sera une bonne rentrée d'argent pour lui, toujours.
Oui.
Donc pour moi, ce sera victoire Paris.
Pour moi, ce sera un match nul. Parce que Paris, pour l'instant, a du mal à gérer.
Pour moi, là, ils seront plus qu'à domicile dans un match qui devrait. Qui devrait faire au moins 50 000 personnes sur 80 000 places. Pour moi, la victoire de Paris me paraît plus que logique. Hein. Même si les circonstances des derniers matchs font que Paris n'a pas été flamboyant contre Nantes, contre Caen. Paris n'est toujours pas flamboyant contre Monaco.
Il est juste flamboyant en Ligue des Champions. Quand ils veulent, parce que contre l'Ajax, c'est des
points. Les deux premiers matchs sont douteux. Donc pour moi, victoire de Paris.
Match nul.
Lorient-Saint-Etienne.
Saint-Etienne dans le mou, hein, après avoir
deux
perdu
ont besoin de points.
La Ligue Europa leur pose problème, puisqu'ils joueront d'ailleurs.
Parce qu'ils arrivent du mal à gagner en Ligue Europa. Hein,
oui, sans Ruffier. Ils joueront.
Et pour moi, Saint-Etienne, ils peuvent pas jouer le championnat et la Ligue Europa. Et...
Comme Lille, comme Guingamp.
Ils ont un gros problème, Saint-Etienne, c'est qu'ils ne marquent pas.
Ils ont pas
la perte de Brandao
est fatale.
Est vraiment considérable. Pourtant, ils se sont bien renforcés avec Ricky Van Wolfswinkel.
Donc pour moi,
c'est
un
joueur.
Match nul.
Parce que les matchs Lorient-Saint-Etienne ont toujours été pleins d'actions de but, mais jamais de réelle victoire.
Match nul.
Saint-Etienne.
Je vois bien Saint-Etienne quand même
se
débloquer et gagner.
Lille-Guingamp. Pour moi, ce sera un match nul.
Des équipes où l'Europe aussi ne leur convient pas trop, même Guingamp surtout. Je pense que si Guingamp n'aurait pas eu l'Europe, ils auraient peut-être mieux entamé leur début de saison.
Ils ont perdu Yatabaré
qui était
leur attaquant.
Lille, c'est pareil.
Ils ont récupéré le frère, Sambo.
Ouais, mais
un
c'est
peu moins talentueux.
Moi, je pense que le joueur de les erreurs de Guingamp ce début de saison, c'est le gardien. On achète un jeune gardien prometteur, danois, Lossel. Et sur le peu de matchs qu'il a fait, il a été meilleur que Samassa depuis le début de saison.
Samassa a eu un carton rouge, je crois.
Oui.
NDSMB, ils l'ont vendu, je vois pas pourquoi.
Non, ils l'ont pas. Il était en prêt de 2 ans, NDSMB. Il est retourné à Nancy.
Ils auraient pu l'acheter.
Pour moi, ce serait une victoire. Un nouveau, encore un match nul.
Match nul pour moi.
Match nul.
Nantes,
et pour moi, ce sera la victoire de Lille.
Nantes affrontera Reims. Je vois là aussi un match nul, puisque Nantes est certes sur sa lancée, mais Reims prend de la confiance.
Match nul.
Ça me paraît aussi simple.
Nantes.
Nantes.
Nice affrontera Bastia.
Bastia, ça va
mal. Et pour moi, ce sera la victoire de Bastia.
Bastia, c'est la crise.
Nice, pour moi, c'est l'occasion pour eux de se relancer, tout simplement.
Nice.
Parce qu'à Nice, on a recruté un joueur qui s'appelle Hult, un Suédois. Excellent. Moi, je trouvais qu'il était excellent, mais voilà, je redis la même chose. Il n'y a pas de défense à Nice.
Moi, ce sera la victoire de l'OGC Nice.
Pour moi, ce sera Bastia.
Bastia.
Metz affrontera Rennes.
Victoire de Rennes.
Metz qui fait un très bon début de saison.
Et Rennes aussi.
Malgré la défaite contre Evian.
Rennes, un peu moins bien que Metz, mais... C'est à Metz ?
À Metz. Mais moi, je vais reparler d'un match nul, encore une fois. Donc, ça
match
sera
nul.
Mon quatrième match nul de cette journée que je pronostique. Monaco, Evian.
Evian.
Evian qui est sur une bonne lancée, je dirais Evian.
Une victoire d'Evian à Monaco.
Comme les joueurs.
Ça serait pas mal pour Pascal Duprat.
Comme les joueurs. Match nul.
Ah, ils sont sur leur lancée, ça fait plaisir parce que Pascal Duprat a failli jeter l'éponge quand même. Hein. Il l'a dit, hein, si je vois que c'est moi qui ne fais pas avancer le club, je n'hésiterai pas à laisser ma place à un autre. Mais c'est quand même lui qui tire toutes les rênes du club. Parce que ce soit en haut du côté du président, il en a beaucoup besoin. Donc de toute façon, il sera toujours attaché au club. Oui. C'est un club qui est arrivé en Ligue 1 sans fondation, j'ai envie de dire. On a construit ça sur Pilotti. Et il y a les bouts de bois qui commencent à tomber. Donc là, il remonte un peu la pente, Pascal. Et je suis très content pour Evian. Puis il y a eu du bon recrutement, parce que moi je trouve que c'est dommage. Bruno.
Jenny Bruno qui est un très bon joueur.
On a recruté Leroy, qui a fait un match seulement de championnat pour l'instant. Et puis il y a surtout la recrue, hein, Teyada.
Sugu aussi.
Sugu, oui, Nielsen, mais Teyada pour moi c'est la recrue. Il s'est fait remarquer au mondial avec le Costa Rica. Moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Donc, c'était une très bonne recrue pour Evian.
Ah, Evian n'est pas le même club qu'il faut non plus.
Et je suis déçu qu'il n'y ait pas eu plus de Costa Rica à arriver dans les championnats européens.
Mais il y en avait déjà un, Keylor Navas.
Oui, mais un match pour l'instant, de disputer avec le Real.
Il ne s'est pas pris de but.
Non.
Un clean sheet.
Marseille-Toulouse.
Marseille.
Victoire de Marseille qui fait un très très bon début de
même
saison.
Ou match nul, parce que Toulouse quand même a quand même gagné sur la pelouse de Saint-Etienne.
Moi j'ai apprécié le jeu promis donné par Toulouse face à Saint-Etienne. Le but c'est tout simplement une action 100% collectif.
Puis au plus, le match avant Saint-Etienne, ils avaient fait match nul contre le PSG.
Il va falloir arrêter Marseille et pour moi,
c'est Toulouse.
Marseille.
Match nul. Victoire de Toulouse.
Pour moi ce sera Marseille.
Bordeaux-Caen. Bordeaux va mal. Caen doit se relancer. Pourtant, les trois derniers matchs, c'est trois bonnes performances, mais sans victoire. Donc, pour moi, c'est Caen.
Bordeaux.
Match nul.
Dernier match, Montpellier-Lyon. Montpellier, pas mal, 7e. Lyon, 6e. Voilà. Moi, je vois la victoire de Montpellier.
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 Et la petite phrase pour terminer, donc c'est pronostic Ligue 1. Il y a cette phrase de Roland Courbis la dernière fois qui sort comme ça. Nos adversaires ont du mal à jouer contre nous quand on est dans un bas niveau, alors je n'imagine pas quand on sera bon. Donc intéressant de voir quand Montpellier sera bon. Cette phrase montre peut-être une ambition. Une envie de coupe ou de Ligue Europa cette année.
Ils auraient pu la dernière s'ils avaient pris Courbis dès le début. Parce que Roland Courbis connaît bien le club puisqu'il l'a entraîné.
Il l'a monté, je
3
crois.
3 ans, oui, il les a fait monter. Donc ils auraient pu, mais.
En tout cas, là, on s'approche de la 10e journée et on n'a toujours pas d'entraîneur licencié. On progresse parce qu'il y avait 6 journées l'année dernière. 6e journée, un entraîneur. 7e journée, un entraîneur.
C'était qui ?
Le premier entraîneur, c'est Ravanelli.
Non.
Et après, c'était Eli à la 7e journée. Donc là, on progresse. Voilà, alors ces pronostics-là, c'est à partir du vendredi 17 octobre, pardon. Puisque donc la France Espoir jouera.
La France aussi.
Ouais, et l'équipe de France aussi. Avant de partir sur le débat, résultat, donc Le Mans féminin fait 3 partout contre La Roche-sur-Yon. Et Le Mans masculin, premier à égalité avec Vertoux.
fait match nul.
Fait match nul, donc un partout. À noter donc que Le Mans avait éliminé Tenny 6-0 et qui s'est qualifié face à Saint-Georges de Butavant 2-0 et donc affrontera Le Mans-Glonnières si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc voilà pour l'actu locale. L'actualité, alors l'actualité, donc il y avait Gignac déjà pour commencer, donc la question se posait, donc on y a répondu. Il y a le gardien de l'Espagnol Barcelone, Casilla. Pas Casillas, Casilla.
Qui sera en contact avec le Real de Madrid.
Qui a été sélectionné en équipe d'Espagne. Et qui a été formé d'ailleurs au Real de Madrid. Donc moi, je trouve que ça fait polémique. Parce qu'on recrute quand même Keylor Navas, excellent gardien. Déjà, on le fait peu jouer. On préfère à quelqu'un qui n'a même plus le niveau d'un joueur de première division. Je le dis, c'est tout simplement.
C'est vrai.
Et là, ça fera sûrement pas plaisir à justement à Navas d'apprendre que finalement il arrivait et qu'il y aurait un autre joueur qui viendrait. C'est certes que des rumeurs, mais
qui sont fondées.
On enlève encore un joueur à une équipe de niveau moyen, finalement pour pas s'en servir. Et puis nous rendrons hommage. Alors là, c'est hors catégorie football, mais nous allons rendre hommage donc.
À Jules Bianchi.
Jules Bianchi, voilà, qui est dans un état critique.
Qui est un pilote de Formule 1 qui a eu un accident assez grave. Qui s'est pris une dépanneuse au Grand Prix de Japon.
Lors de ce prix donc du Japon, voilà. Beaucoup de pluie d'ailleurs. Qui, ça peut être contesté. Il y avait un typhon quand même.
Oui.
Et ce qui est
que la course soit démarrée.
La sécurité est armée de rencontre.
Ce qui fait polémique, c'est surtout que cette dépanneuse, puisque c'était l'Allemand qui avait pris en premier.
Adrien Sutil qui s'était vautré.
Qui avait fait une sortie de piste en premier. Il y a la dépanneuse qui vient pour le dépanner.
La dépanneuse, elle a pas été là à ce moment-là.
Et le problème, c'est qu'une heure après, la dépanneuse n'est toujours pas enlevée.
Elle doit soit attendre que la commission de course lui dise d'entrer en piste pour enlever la voiture, soit attendre que la voiture de sécurité soit sur piste. Elle n'a pas été là.
C'est le Français, malheureusement, qui a eu un choc. Ses parents, d'ailleurs, sa famille devrait arriver dans les alentours de 10h. Et donc, devrait être à l'hôpital dans les alentours de 12h, heure française.
C'est un hématome cérébral, c'est ce que Michael Schumacher avait eu.
Donc, voilà.
Et qui a été opéré dans la journée même.
Allez, il nous reste 15 minutes, un peu moins de 15 minutes pour débattre. Donc, l'équipe de France, déjà, l'impression sur le mondial en quelques mots.
Un très bon mondial.
Bien.
Ils ont pas perdu contre n'importe qui non plus.
Champion du monde.
Pour moi, l'équipe de France fait un très bon mondial. Après, c'est dommage parce que je pense que contre l'Allemagne, c'était.
Ils pouvaient mériter mieux.
C'était battable. Pour moi, l'Allemagne.
L'Allemagne a
pas très très forte, mais nous on était encore moins fort.
Parce que en huitième de finale, ils auraient dû se faire sortir par l'Algérie et en quart par la France.
Parce que si on battait l'Allemagne, vu le Brésil, comment ils ont joué après.
Arrête en finale.
Je pense qu'il y avait quelque chose à faire encore mieux, même si le résultat est très bien pour l'équipe de France.
Ça peut faire polémique aussi par rapport à ce coup franc. Moi, je trouve que ce mondial était vraiment très ennuyant. Le mondial des gardiens, j'ai envie de dire. Parce que par contre, en termes d'arrêt, ça c'était...
De buts aussi, parce qu'il y a eu des beaux buts comme Raves.
Oui.
Et pour moi, en termes d'arrêt au niveau des gardiens, c'est meilleur qui passe.
Il n'y a pas la magie qu'on avait eu en Afrique du Sud. Et c'est dommage qu'un mondial à 11 milliards d'euros...
Puis au Brésil,
fasse pas aussi rêver qu'un mondial qui a coûté moins cher en Afrique du Sud.
Puis c'était au Brésil, donc.
Afrique du Sud, c'était
du foot quand même.
Terre du football.
C'était le premier mondial en Afrique, donc il y avait un certain engouement. Voilà.
Puis il y a l'équipe du Brésil qui a pas du tout conquis. Elle aurait déjà dû. Il y a la polémique arbitrale. Cette équipe aurait dû se faire éliminer.
Alors,
dû se faire
des phases de poule.
Il y avait des équipes fortes comme le Chili qui étaient capables d'aller bien loin.
Costa Rica aura pu aller en demi parce qu'il perd quand même au tir au but contre les Pays-Bas en quart de finale.
Grâce à
ce coup de maître, oui, de nouvel entraîneur de Manchester United.
Louis van Gaal, oui.
Voilà. Moi, si j'avais un mot pour l'équipe de France, c'est encourageant pour l'Euro 2016.
Bah oui, ils peuvent aller en finale.
Ils sont favoris. Hein.
Ils peuvent aller en finale.
Ouais, ils sont favoris.
Bien sûr, les favoris, c'est l'Allemagne, l'Espagne.
L'Espagne.
Mais la France, pour moi, peut faire quelque chose dans l'Euro.
L'Espagne qui a été très décevante à la Coupe du Monde.
Mais
quand
bon, après, elle reste favori, c'est la tenante du titre, donc elle reste favori.
Alors, justement, l'Euro, la liste de Didier Deschamps, votre impression?
Déjà, il n'y a pas Ruffier.
Ruffier a été sélectionné en premier lieu.
Oui,
après, c'est Costil.
Par Costil, qui, pour moi, Costil est le meilleur gardien français qu'on ait vu depuis ce début de saison. Pour moi, c'est aussi simple.
Ruchier est pas mal.
Peut-être pas de l'avis de tout le monde.
Ruchier est pas mal avec en Europe, oui.
En Europe, oui. Mais il y a certains points qui font que, par exemple, cette défaite face à Paris, bon, ah, certes, c'est qu'un match.
Ça fait tâche.
Ça fait tâche.
5-0, quand même.
Bon, vous, on va dire, voilà, on dit ça fait tâche de la part de Ruffier. Mais Didier Deschamps n'en a pas dit autant de Lloris quand il se prenait 30 buts. Donc, quelque part, c'était bien qu'il l'ait fait venir. Au moins, il tient pas compte de ce match. Mais pour moi, quand même, le meilleur gardien, c'était Costil. Carrasco aussi, qui a fait un très très bon début de saison. Mais pour des raisons personnelles, qui n'est pas prêt pour l'instant de retourner en équipe de France. Moi, là où je suis déçu, c'est le fait de voir que Corchia n'est toujours pas dans cette sélection.
Pourtant, il mérite. Hein.
Ça viendra.
Ça va venir, mais...
Ça a été soit, c'était, pour remplacer Debuchy, c'était soit Corchia, soit Jallet, soit Fanny. C'est Jallet qui a été pris, bah, peut-être que la prochaine
Jallet,
fois...
Jallet mérite totalement sa place aussi.
Oui, bah oui, oui.
Mais il y a Sagna et il y a Evra. Je pense qu'il y avait un des deux et j'ai envie de dire que...
Bon, après, si...
Les deux d'ailleurs, peut-être Evra s'est montré beaucoup plus convaincant que Sagna en ce début de saison.
Evra,
il a fait un très bon début de saison avec la Juve.
Evra n'est peut-être pas bon, enfin sur le terrain, c'est pas ça, mais dans les vestiaires, il est important.
On l'a vu en 2008, oui, il était très important.
C'est un des plus vieux... Il y a des plus expérimentés joueurs de l'équipe de France. Il a fait deux Coupes du Monde.
Expérimenté, mais en 2010.
Moi,
je le tiens responsable de ce qui s'est passé en 2010.
Ah, oui. C'est le capitaine.
Tous les joueurs ont leur part
de responsabilité. Je ne tiens pas Domenech responsable. Il y a Anelka qui s'emporte, certes.
Bah, tous les joueurs sont responsables. Hein.
Ils ont tous une part de responsabilité.
Ah, oui.
Et ils sont tous tombés dans le panneau d'Evra.
Mais
pour moi, Evra a pris carrément l'équipe de force. Parce qu'à la fin, Raymond Domenech, après, pour ce match en Afrique du Sud, Raymond Domenech n'a même pas serré la main à l'entraîneur sud-africain. Mais moi, je comprends totalement parce qu'il se sentait lui-même plus l'entraîneur de l'équipe de France.
Trahi,
carrément, oui.
Puis humilié d'avoir fait une Coupe
et
du Monde ratée.
Et puis, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais est-ce qu'il avait aussi beaucoup de choix à proposer cette période dans l'équipe de France? Il avait déjà en 2008 la reconstruction d'une équipe, puisque la moitié de l'équipe de France était
partie en retraite.
Puis il y avait le choix, alors le choix intéressant de prendre Planus, très très bon choix, parce qu'il était dans ses temps forts.
Après, c'était pas forcément évident non plus pour lui, comme tu dis, avec les joueurs qu'il y avait à cette époque-là.
Voilà, pas facile.
C'est beaucoup d'anciens joueurs qu'on a et des jeunes qui n'étaient pas encore au point.
Donc beaucoup de responsables. Donc justement. L'Euro 2016, alors avant toute chose, quelles sont pour vous l'équipe de France qui y aura en 2016? Vos impressions?
Celle qui a eu à la Coupe du Monde, s'il ne peut y avoir de blessés graves, comme Giroud ou Debuchy en début de saison. Mais je pense que l'équipe qui a été en Coupe du Monde était pour moi la meilleure équipe de France qu'on a eue.
Pour moi, il y aura Lacazette, Corchia. Au milieu, je pense que Pogba y sera, Matuidi, c'est sûr.
Bon, pour moi,
offensivement, Griezmann y sera, à mon avis. Benzema, j'ai des doutes.
Il va falloir prouver. Il va falloir prouver, parce qu'en attaque, on n'essaie pas encore ça.
Lucas Digne y sera.
Pour moi, comme Valentin, ce sera la même qu'à la Coupe du Monde.
Oui, il y aura sûrement des changements.
Il y aura l'entrée d'une certaine jeunesse.
Hein. Mangala, Varane,
avec quelques petits changements, mais.
Là, on va faire tourner, là.
Parce que Evra sera en fin de carrière.
Pour moi, Evra ne devrait pas y être invité.
On pourrait
voir la surprise de retrouver Ribéry. Tout simplement pourquoi? Parce que Didier Deschamps a dit s'il y a quelqu'un qui envoie les joueurs en retraite, c'est moi le sélectionneur et pas les autres. Donc, un retour, tout comme ça pourrait l'être pour Philippe Lam.
Oui, Philippe Lam, je pense.
Moi, je pense que déjà d'une Corchia sera dans cette sélection.
J'espère.
Ce qui m'a fait plaisir, c'est le soir de l'élimination de l'équipe de France, c'est d'entendre Jean-Michel Larquet, qui a dit justement dans les buts, il y aura de la concurrence. Lloris ne doit pas être d'office d'ailleurs nommé capitaine. Il va falloir les mettre en concurrence. En défense, il y a Corchia, il y a Lindsay Rose. Il y a Mangala, Varane, et il y a même peut-être Umtiti. Alors, moi je suis contre
Sako,
mais Sako aussi, oui. Au milieu de terrain, il y aura l'entrée de jeunesse. Alors, il y a Kurzawa. Moi je suis contre l'entrée de Kurzawa.
Pourquoi? Parce que c'est un Polonais.
Pour moi, il doit jouer avec la sélection polonaise.
S'il est né en France, c'est un Français. Sa mère est d'origine polonaise.
Et après, c'est lui qui choisit la sélection qu'il veut.
Moi, voilà. c'est ce que je trouve dommage dans ce football. Regardez à Mamadou Niang, il va jouer avec le Sénégal. Mais il y a plusieurs joueurs sénégalais, par exemple Gomis, qui jouent en équipe de France.
Et c'est comme Ben Yedder, pareil.
Imaginez un peu que ces joueurs qui viennent jouer dans les grandes sélections, qui ne sont pas totalement de nationalité française, aillent jouer avec les autres sélections. On aurait des équipes nationales, on n'aurait pas 5-6 équipes nationales de classe mondiale. Il y aurait 25 équipes qui seraient concurrentes. Là, c'est pareil.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui prennent une autre nationalité.
Le cas Fekir aussi qui fait en ce moment très polémique.
Il a été sélectionné en espoir.
Il y a Ben Yedder aussi. Par contre, qui pour moi,
Mounir Al-Aladi,
malgré sa nationalité tunisienne, est un excellent joueur, Ben Yedder, parce que
il mériterait d'être en équipe de France.
Le meilleur attaquant.
Il a égalité de but avec Gignac.
Mounir Al-Aladi, par exemple.
Aussi, oui. Donc il y a beaucoup. Mais ça, c'était d'ailleurs un reportage qu'il y avait eu sur Enquête de foot sur Canal+. Ce qui faisait polémique aussi, c'est le fait qu'on sélectionne des joueurs en France espoir, pas forcément de nationalité française. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les garder pour la France A.
Bah, ils sont pas appelés.
Parce qu'ils sont pas appelés. Alors le problème, c'est qu'on leur fait faire leur formation en France, alors qu'ils pourraient avoir une formation adaptée au niveau de la sélection nationale du pays dans lequel ils joueraient dans le futur. Il y a peut-être un système à revoir. Mais oui, il y a
la jeunesse lyonnaise, à mon avis, qui pourrait arriver avec Ferry, Umtiti, Tolisso.
Tolisso.
Clinton Enji, qui a de la nationalité
camerounaise. Il y aura du Lyonnais, mais... parce que les Lyonnais...
Yacine Benzia,
d'ailleurs, pour moi, le meilleur jeune de ce début de saison, c'est sans aucun doute Enji.
Fekir.
Ce petit Camerounais est excellent. Même en sélection nationale, il a fait sa première sélection contre la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Il a marqué hein, contre la Côte d'Ivoire, un doublé, je crois. Et, enfin, en tout cas, excellent joueur. Donc, il y aura du changement. Par contre, je pense que pendant 2 ans, on va voir une équipe de France tourner. Tout simplement, parce qu'il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa, il y a les équipes qui vont privilégier ce genre de compétition à la sélection nationale, puisqu'il n'y a pas trop d'enjeux pour l'équipe de France.
Kurt Zouma aussi qui pourrait y être.
Oui, il est pas déjà dans une sélection
hein. Il est français, Kurt Zouma.
Il était en équipe de France Espoir, il me semble.
Oui. Ou alors c'est Guy Lavogui. Non, Guy Lavogui aussi, il est. Non, je confonds avec un autre. Oui, donc on pourrait par exemple trouver donc Costil. On pourrait avoir beaucoup plus de joueurs. Bah, carrément, tous ceux qui jouent en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, on pourrait très bien ne pas les voir dans les prochaines sélections.
Ouais, mais ça ferait beaucoup de mal à l'équipe de France.
C'est pas un problème. C'est un problème de faire tourner.
Puis c'est pour voir comment vaut certains joueurs.
S'ils ont le niveau international ou pas.
Après, sans doute que les joueurs de ceux qui font Ligue des Champions ont le niveau international. Sinon, ils font pas Ligue des Champions.
Ah bah oui, c'est assez.
C'est histoire de voir les joueurs qui peuvent être ajoutés. Parce que de toute façon, il y aura forcément de nouveaux joueurs à faire rentrer dans cette équipe de France. En tout cas, ça risque d'être très palpitant. Et je pense qu'on
La jeunesse parisienne aussi avec Onganda et Baybek qui.
Je pense qu'on aura une très très belle équipe de France.
Pour l'euro.
Oui, je pense aussi.
On va terminer sur le dernier sujet, puisque pour les questions, il sera un peu compliqué. Il nous reste 2 minutes. On aura tout le temps la semaine prochaine de parler, puisque le championnat ne recommence que le week-end prochain. Lusenac, impression tout simplement pour ces 2 dernières minutes.
Bah, c'est scandaleux.
Dégoûtant.
C'est scandaleux.
Lamentable.
Moi, je dis honte à la FFF.
Honte à Thiriez.
Thiriez, oui.
C'est pour moi anormal. Qu'un club, et c'est là qu'on voit encore que l'argent est roi dans tout ça.
Oui, il n'y a qu'en France où ça sort. Il n'y a qu'en France.
C'est.
Il n'y a qu'en France qu'on ne sait pas encore si une équipe va jouer en nationale.
On va chercher la petite bête dans une botte de foin.
Puis en plus, tu rétrogrades une équipe qui est montée sur le terrain en Ligue 2 que tu veux rétrograder après en CFA. Et puis non, en fait, il rétrograde en 6ème division.
Ce qui est difficile encore, c'est qu'on leur dit.
Ah, il y avait un problème d'éclairage de télésurveillance.
Oui,
avec
d'éclairage et de sécurité qui n'a pas été appliqué.
Mais pourtant, c'est des travaux qui durent 2 jours.
Tous les papiers à l'ensemble des personnes qui voulaient les voir sur le site de la LFP et sur le site de Lusenac, tous les papiers étaient fournis. Alors la LFP qui enlève certains papiers pour dire oh, ils nous ont pas mis ça, alors que tous les papiers du Stade Toulousain, les amis du Stade Toulousain étaient bien présents.
Il y a déjà des matchs sport qui se sont déroulés là-bas, alors je vois pas pourquoi.
On va leur dire.
C'est que les terrains sont aux normes et.
Pour moi, on peut pas leur dire. On peut pas leur dire que c'est pas aux normes de sécurité et on peut pas leur dire que c'est pas aux normes d'éclairage. Le Stade Toulousain, il joue quand même en première division de rugby, c'est le top 14. C'est des stades qui sont souvent remplis dans le guichet fermé. L'Usnax aurait été peut-être 3000 spectateurs par match.
Ah, plus, oui. Plus avec les
il y aurait plus de supporters adverses que les supporters de l'USNAC. Ah. C'est possible.
Et on conteste. Alors, est-ce que le top 14 n'est pas bon en normes de sécurité? Pareil, c'est diffusé sur Canal+, le rugby.
Mais il sera plus sur Top Plus s'il y a l'arbitrage vidéo au top 14.
Ce qui est, quand tu vois le stade du Racing Métro Colombes. Oui.
En tout cas, voilà pour l'USNAC, c'est bien dommage. Voilà, on vous remercie. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, 14h, 14h30. C'était Parlons Foot 97.9 FM avec Valentin, Elliot et Enzo. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
En tout cas, voilà pour...